Seigneur. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole ce matin. Permets, Seigneur Jésus, qu'elle puisse rentrer encore en profondeur, Seigneur, dans nos cœurs, pour que nous soyons transformés par elle. Et Seigneur, que de ta parole puisse naître, Seigneur, par ton esprit, un désir pour toi, un désir de te suivre, Seigneur. C'est ma prière ce matin. Enrichis ta parole, Seigneur Jésus. Fais-nous la vivre à nouveau. Amen. Amen. Nous allons donc continuer notre parcours dans l'épître de Paul aux Corinthiens. J'espère que vous avez avancé dans votre lecture, je vous fais confiance. Je ne vais pas venir chez vous voir si vous faites vos devoirs et si vous avez lu l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens. Je vous fais vraiment confiance. Je sais que vous êtes des gens, des hommes et des femmes sérieux. Et si nous avons choisi cette épître aux Corinthiens, on conseille pour pouvoir la prêcher dessus. C'est parce qu'il nous semblait que le Seigneur avait des choses à nous dire au travers d'elle, n'est-ce pas ? Alors, avant d'aller plus loin, permettez-moi d'accrocher quelques wagons et de rafraîchir notre mémoire sur les quelques points que nous avons vus ensemble. Merci à Kevin de projeter derrière moi, comme ça je n'ai pas à me retourner sans arrêt pour voir si ça suit ou pas. Voilà, la première lettre aux Corinthiens est une lettre importante, écrite par Paul à une église qui a quelques soucis. Quand je dis des soucis, c'est un euphémisme, n'est-ce pas ? C'est un gentil mot pour décrire une église quand même qui a des sacrés problèmes. Voilà, j'aurais pu dire plutôt que dans l'église à Corinthe, il y avait un sacré bazar. Alors que se passe-t-il dans cette église ? En fait, l'apôtre Paul apprend par différentes sources et différents rapports qu'il y a d'énormes problèmes dans cette église. Et donc je vous laisse lire la liste. Des factions au nom des leaders, de l'immoralité, des procès entre chrétiens, des questions au sujet du mariage, de la sexualité et du corps, des problèmes en relation avec les idoles, des problèmes sociaux, du désordre dans les réunions de l'Église, des théories fumeuses sur la résurrection. Bon, bref, voilà, on avait déjà listé tous ces problèmes il y a maintenant 3 semaines et 1 mois. Alors, quel est le problème de fond ? En fait, il y a un problème qui va nous interpeller ce matin. Et c'est cela dont nous allons parler, c'est le problème des factions dans l'Église. Puisque l'apôtre Paul en parle, je vais faire de la prévention. Ce n'est pas que nous vivons des divisions et des factions dans l'Église. Le rôle du prédicateur, le rôle du prêcheur, c'est aussi de faire de la prévention pour pas que ça arrive chez nous. Ça suffit, au Corinthe, ça va très bien. Mais chez nous, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça, n'est-ce pas ? Donc l'apôtre Paul apprend qu'il y a plusieurs factions qui s'entre-déchirent, dont une se réclame de lui. Certains se disent pour Paul et d'autres pour Apollos et d'autres encore pour Pierre et d'autres encore pour Jésus, pensant être plus spirituel que les 3 autres factions. Alors quel est le problème de fond? Et ça nous l'avons bien vu il y a 3 semaines, quel est le problème de fond dans cette église de Corinthe? En fait, tout ceci ne sont que des symptômes en quelque part. C'est en fait que cette église de Corinthe est une église qui est jeune. Ce sont des jeunes convertis, une 15aine d'années à peu près après la création de l'église de Corinthe. C'est comme une église qui est jeune et qui est, je dirais, encore imbibée par la culture qui l'environne, imbibée par tout ce qui se passe à Corinthe. Et je vous rappelle qu'à Corinthe, Corinthe est une ville de Grèce. Et dans la Grèce, il y a une espèce de recherche des maîtres en philosophie, des maîtres de sagesse. L'important pour un Grec et l'important pour un Corinthien, c'est de trouver un leader qui leur parle de manière éloquente de comment mener une vie qui est agréable, etc. Les frères à Corinthe avaient bien reçu Jésus dans leur cœur, ils étaient vraiment convertis à Jésus-Christ, mais je dirais le ménage intérieur de l'esprit de Corinthe n'avait pas été fait. Et puis, Espoir Plus n'avait pas été inventé encore à cette époque-là. C'est une blague, hein ? Merci de rigoler. La culture corinthienne était encore influente dans leur esprit et dans leur mode de raisonnement. Donc, dans l'église de Corinthe, plusieurs groupes se sont constitués et se retrouvaient sous la bannière du responsable qu'ils s'étaient choisi. Alors, dans le premier chapitre, l'apôtre Paul, il dit « J'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, on m'a fait un rapport, qu'il y a des disputes parmi vous. Chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de l'apôtre Paul que vous avez été baptisé? Alors, ne croyez pas que les têtes de liste étaient impliquées. Ce n'était pas une division entre les responsables, c'était une division au sein de la communauté qui prenait en quelque sorte les leaders en otage. C'était un peu comme si les factions mettaient leurs champions sur un ring à leur insu et contre leur corps défendant. Les apôtres devenaient en quelque sorte la propriété de la communauté. Et on peut très bien imaginer les discussions qu'ils pouvaient avoir. Ça, c'est, on va garder le ring encore un petit peu, Kevin, si tu arrives à revenir derrière. Les apôtres devenaient en quelque sorte leur propriété. Et on peut très bien imaginer les discussions qu'ils pouvaient avoir entre les différentes factions qui se réclamaient de leur leader, de leur tête de liste. Leur tête de liste n'y était pour rien là-dedans. Les têtes de liste s'entretenaient bien, mais la communauté avait décidé de prendre parti pour l'un ou de prendre parti pour l'autre. Et l'un pouvait dire, regardez-moi mon Paul, il parle bien, il parle avec intelligence. Mais l'autre aurait pu dire, oui, mais Apollos, il est plus grand que ton apôtre Paul. Regarde d'ailleurs, Paul, ça veut dire le petit, il est petit de taille, et puis quand il parle, on ne comprend rien à ce qu'il dit. Apollos, il est vraiment éloquent. Et puis encore d'autres personnes auraient pu dire, Pierre, mais Pierre, il a vu Jésus, il a marché avec lui pendant 3 ans. Moi, je suis de l'apôtre Pierre. Paul, c'est rien du tout. Il n'a même pas suivi Jésus sur les rivages de Galilée. Et puis d'autres encore qui disaient, mais nous, on ne veut pas entendre ni parler de Paul, ni l'apôtre Pierre, ni d'Apollos. Nous, on suit Jésus. Voilà, c'était ça qui se pouvait se dire entre ces différentes factions. Alors face à ces problèmes, Paul aurait pu laisser baisser les bras, n'est-ce pas? Ou on va laisser tous ces gens s'égosiller et s'étriper entre eux. Moi, je me retire là-dedans, je suis pour rien. Voilà. Mais ce n'est pas ça qu'il va faire. Hein. Et donc, nous avons vu, comment l'apôtre Paul est venu dans cette église à envoyer des lettres et à parler afin de remettre Christ au centre de la communauté. Et Pascal nous en a bien parlé il y a 15 jours. Le défi pour l'apôtre Paul, c'était de remettre Christ et la croix au centre de cette communauté, parce que Paul savait de manière théologique, mais aussi de manière pratique, que Dieu est fidèle pour garder ses enfants et pour les amener à bon port. Alors je vous propose d'aller plus en profondeur ce matin par rapport à ce thème de la querelle des factions et de nous laisser interpeller par le texte biblique. Pour bien cerner les tenants et les aboutissants de cette querelle des factions, il aurait fallu que je lise les 4 premiers chapitres de l'Épître aux Corinthiens, ce que nous n'avons pas le temps de faire ce matin. Je vous conseille vraiment de lire cela chez vous. Parce que comme ça, en lisant les 4 premiers chapitres, vous allez avoir une vue d'ensemble de ce problème des factions et comment l'apôtre Paul envisage de la traiter. Mais ce matin, je vais lire simplement une petite portion du texte, donc le chapitre 3, les versets 1 à 10. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un de dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Mais qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, et selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et je vais m'arrêter là sur ce texte. Imaginez, le matin, vous vous levez, vous allez au travail, et à la sortie du travail, quand vous rentrez chez vous, il y a une chose que tout le monde fait, je suppose que tout le monde le fait, c'est vous sortez votre clé de boîte aux lettres, et vous allez dans votre boîte aux lettres, et vous regardez votre courrier, et vous recevez une lettre de ce style-là. Comment est-ce que vous réagissez? Une lettre vous disant « Vous n'êtes pas spirituel », une lettre qui dit que vous êtes charnel, que vous êtes encore un bébé, que vous n'avez pas progressé. Comment est-ce que vous aurez réagi? Alors l'apôtre Paul est hardi dans ses propos. L'apôtre Paul ne prend pas de pincettes. Il va secouer les Corinthiens. Dans notre langage d'aujourd'hui, on va dire il leur rentre dedans. Il leur rentre dedans. C'est quelques mots à la lecture, parce que, vous savez, cette lettre-là, on la lit nous maintenant, mais cette lettre, elle a été reçue par les Corinthiens. Ils l'ont lue, véritablement. Hein ? Cette lettre a été comme un électrochoc chez eux. Enfin, ça ne peut pas être autrement. Ils ont dû réagir. Il faut des paroles parfois un peu dures. Il faut parfois des paroles qui choquent pour faire sortir quelqu'un d'une torpeur qui est installée. L'âne a besoin d'une bonne tape au bon endroit pour avancer de quelques pas. J'avais marqué dans mon brouillon l'âne que je suis. Mais on m'a conseillé de ne pas être trop dur avec moi. Alors j'ai rayé que je suis. J'ai rajouté quand même, personnellement, le Seigneur me jette parfois un seau d'eau froide pour me réveiller. Est-ce que ça ne vous arrive pas? Est-ce que ça ne vous arrive pas de recevoir une douche froide pour vous réveiller? Hein? Les Corinthiens sont tellement enfermés dans leur situation, tellement affairés à leurs disputes, tellement installés dans cette situation, je dirais une situation qui est puante, qu'il faut un bon coup de poing sur la table pour faire arrêter ce qui se passe, pour faire arrêter ce qui se passe. C'est comme dans un film, vous savez, souvent on voit des films où il y a des gens qui se querellent entre eux et puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui crie plus fort que les autres qui se querellent pour que la querelle s'arrête. Et l'apôtre Paul fait ça, avec les mots qui lui sont propres. Hein. On pourrait facilement paraphraser ce qu'il est en train de leur dire. « Eh les enfants, vous êtes des enfants, arrêtez de vous chamailler quand même !» Vous croyez être grand, mais vous êtes que des enfants en cours de récréation. Vous êtes comme des gamins. Et la preuve, c'est que vous vous disputez les uns et les autres. Grandissez un peu. Voilà ce que l'apôtre Paul leur dit, en fait. Alors si dans certains textes, il faut comprendre petit enfant dans un sens positif, dans le sens de dépendance d'avec Dieu, ici, dans le texte « petit enfant », c'est plutôt un sens péjoratif. Vous êtes des gamins. Vous êtes des bébés. Vous êtes des bébés, vous êtes des gamins. Alors, être un petit enfant dans la foi, lorsqu'on démarre dans la vie chrétienne, c'est normal. On ne comprend pas tout. Mais si au bout de quelques années, nous n'avons pas progressé, et si nous n'avons pas grandi dans la foi, alors là, ce n'est pas normal. Alors dans cette confrontation avec cette situation installée dans l'église de Corinthe, l'apôtre Paul va utiliser plusieurs manières pour déstabiliser un petit peu les chrétiens de Corinthe si bien installés dans leur dispute. Il faut qu'il leur rentre dedans encore. Et il utilise plusieurs manières pour le faire. Et une des manières qu'il va employer pour aiguillonner les chrétiens de Corinthe, ça va être l'ironie. Et c'est comme ça que je comprends ces versets un peu plus loin au chapitre 4 et au verset 8. Il nous est dit « Déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, déjà vous avez commencé à régner, et puissiez-vous régner en effet afin que nous aussi nous régnions avec vous ?» Déjà vous êtes installés, déjà vous êtes riches. Je me rappelle cette parole de l'apôtre Jean qui... à une certaine église dans l'Apocalypse, ils disent « Mais tu es riche, mais tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu dis que tu es riche. Tu dis que tu règnes, mais tu es pauvre. » Voilà. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait dans ce texte-là aussi. Il ironise pour que l'église à Corinthe puisse vraiment se réveiller, pour que l'église puisse avoir un électrochoc salvateur pour vraiment être recentrée sur Jésus-Christ. Alors ne croyez pas que l'apôtre Paul prend un malin plaisir à mettre le doigt où ça fait mal. Et même si Paul doit utiliser le choc, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle Florence, tu vas me dire. Quand quelqu'un fait une crise cardiaque, on a un appareil là pour un défibrillateur. Voilà. Alors si Paul doit utiliser le défibrillateur pour faire repartir un cœur qui s'est arrêté, il va l'utiliser. Et ça c'est le moyen qu'il utilise. Comme un défibrillateur sur un cœur qui s'est arrêté à l'église de Corinthe, pour le faire repartir. S'il corrige, c'est parce qu'il est le père spirituel de ses croyants à Corinthe. Écoutons-le au chapitre 4 et verset 14. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses. Ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est pour votre bien. Je vous avertis. » comme mes enfants bien-aimés. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous conjure donc, il supplie, hein, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Paul est devenu père en annonçant l'Évangile. S'il utilise donc ces mots chocs, s'il utilise ces mots qui secouent, ce n'est vraiment pas par vengeance, ce n'est vraiment pas par méchanceté, ce n'est vraiment pas par désir d'affirmation ou d'autoritarisme. C'est parce que les chrétiens de Corinthe sont ses enfants bien-aimés. Il a le sens des responsabilités. Il y a un lien, je dirais, affectif qui les relie à lui. Et ce lien n'existe, il le souligne, que par l'Évangile, que parce qu'il y a Jésus entre eux. Que parce qu'il y a Jésus entre eux. Le lien qui unit l'apôtre Paul et ses chrétiens de Corinthe, c'est l'Évangile qui a créé ce lien. Jésus-Christ est le fondement de leur relation. Nul ne peut poser un autre fondement que celui de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, l'apôtre Paul le dit. Et donc, en tant que père, il est appelé à rectifier certaines choses qui le concernent et qui concernent aussi les autres serviteurs de Dieu qui ont travaillé parmi l'Église à Corinthe. Il veut rétablir la vérité par rapport à leur esprit de Corinthe, des maîtres en sagesse. Ok ? Alors, écoutons bien, parce que cela nous donne aussi des pistes pour notre propre service. Et je vais lire quelques versets donc dans ces fameux chapitres de 1 à 4 de la première épître aux Corinthiens qui donnent la pensée de l'apôtre Paul au sujet des serviteurs, au sujet des apôtres. Premier verset, chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Un tout petit peu plus loin, 3 verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Un petit peu plus loin, 3 verset 10, Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. 4, versets 1 et 2. Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ, des dispensateurs du mystère de Dieu. Du reste, ce qu'on attend des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Paul l'affirme, il n'est pas un maître de sagesse. Apollos non plus. Ils sont des serviteurs, mais ils sont des serviteurs de Christ avant tout. S'il y a un seul maître, c'est le Christ, parce que c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs et la tête de l'Église. Ne confondons jamais le maître qui est Jésus-Christ et les serviteurs du Christ. Ces serviteurs ne sont pas appelés à dominer, mais à servir en imitation de Jésus, qui est venu non pour être servi, mais pour servir. Paul emploie deux mots pour serviteur. Le mot diakonos dans le premier verset, qui a donné le mot diacre. Il y a aussi un autre mot lorsqu'il dit qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. C'est un mot hyperétès qui veut dire l'employé subalterne, de rang inférieur. L'employé subalterne de rang inférieur. Alors, vous voyez, on est loin d'une position envieuse lorsqu'on se dit serviteur de Christ. C'est loin d'être une position de prestige ou de renommée. Servir le Christ, c'est renoncer à se servir des autres ou se servir soi-même. Servir le Christ, c'est renoncer à se servir des autres, c'est renoncer à se servir soi-même. J'ai déjà raconté, je crois, mais c'est pas grave. Je suis quand même un peu vieux maintenant. Donc je me rabâche. Quand j'étais jeune chrétien, on était des jeunes chrétiens, tout zélés, tout feu, tout flamme. Et nous sommes allés à une convention, je ne me rappelle plus, c'était dans le sud-ouest. Et puis, on avait tous le désir de recevoir des paroles sur ce qu'on allait devenir. Voilà. Et puis, il y avait un prédicateur qui avait dit à certains, « Toi, tu seras ceci, toi, tu seras cela, toi, tu seras un tel. » Et puis, on s'était tous réunis après la réunion et on s'était partagé. « Toi, qu'est-ce que tu as reçu ? » Et toi, qu'est-ce que tu as reçu ? » Voilà. Moi, un disait, je serais pasteur, l'autre, il s'est réalisé. Un disait, moi, je serais apôtre, un autre a dit, etc. Et on m'a demandé, toi, Norbert, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Et il m'a dit, mais moi, j'ai reçu que j'étais diacre. Je n'étais pas content. Parce que dans ma tête, je n'étais que diacre. Que diacre. Je n'étais pas content à cette époque. Et puis, j'ai grandi, j'ai mûri, et puis je me suis aperçu que diacre, ça veut dire serviteur. Et dans mon cœur, c'est ce que je voulais être, tout simplement. C'est ce que le Saint-Esprit veut que nous soyons tous, serviteurs, diacres les uns des autres. C'est ce que Jésus a été. Jésus est le parfait diacre. Il a été le serviteur de tous, de chacun d'entre nous. Alors je me suis réconcilié avec cette parole. Voilà. Bon, dans 2 ans ou 3 ans, peut-être je vais vous la ressortir encore à nouveau. On va dire, mais on la connaît, Norbert. On le sait. Secondement, les serviteurs du Christ travaillent ensemble. Paul et Apollos ne sont pas en compétition. Ils sont des ouvriers. Là aussi, c'est des co-ouvriers travaillant ensemble. Des ouvriers qui travaillent ensemble et qui travaillent aussi ensemble avec le Seigneur, avec Dieu, ouvrier avec Dieu, hein, ouvrier avec Dieu. Parce que Dieu est le véritable propriétaire du champ. L'Assemblée chrétienne baptiste de Nîmes, le Saint-Martin de Luther King, n'appartient ni à Pascal, ni à Norbert, ni au Conseil de l'Église, ni à vous-même, appartient à Jésus-Christ. C'est lui le propriétaire de notre assemblée. C'est lui qui l'a suscité, c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui l'a tenu jusqu'à maintenant, c'est lui qui va, par sa grâce, la tenir pour les prochaines années. Pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, et puis jusqu'à ce qu'ils reviennent. Amen. Amen. Si nous, en tant que serviteurs du Christ, et je vous rappelle que nous sommes tous appelés à être serviteurs du Christ, si nous avons une course à mener, ce n'est pas contre les autres que nous avons à mener cette course, c'est contre nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes. Vous savez, l'apôtre Paul, il a un désir extraordinaire de voir l'Église au Corinthe progresser, sortir de la torpeur. Dans la seconde épître au Corinthe, il dit « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à Christ. » Je vous ai fiancé à Christ. Et ça me parle, moi, en tant que responsable de l'Église. Ça me parle. Je n'ai pas à vous attirer à moi. Pascal n'a pas à vous attirer à lui, mais juste à vous attirer à Jésus-Christ. À vous pousser dans les bras de Jésus. C'est ça un petit peu notre rôle en tant que responsable d'Église. À vous pousser dans les bras de Jésus. À être fiancé à lui. N'est-ce pas, Frédéric? Il s'occupe du parcours alpha couple hein, avec Irène. Hein. C'est des problèmes, vous allez voir. Fiancé à Jésus-Christ. Notre désir en tant que responsable d'Église, c'est que chacun d'entre nous et tous ensemble, nous puissions être vraiment dans les bras de Jésus, fiancés à lui. Le serviteur de Christ n'est pas l'intermédiaire entre Dieu et le reste des hommes. Il n'est pas le super-héros détenant la clé et toutes les solutions à tous les problèmes de ceux qui l'entourent. Chaque serviteur du Christ travaille dans la partie du champ au moment propice, selon la grâce qui lui est faite, selon les compétences qu'il a reçues. Il est loin le sujet d'orgueil. L'apôtre Paul dit, mais pourquoi tu te glorifies? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ça, c'est dans ces chapitres-là. Hein, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu es au service de Christ pour ton Église et que le Seigneur t'a béni au travers de toi, eh bien, c'est parce que c'est une grâce qui t'a été faite. Alors, si une grâce t'a été faite, pourquoi est-ce que tu te glorifies? Tout simplement. Chapitre 4, verset 7. L'évaluation du travail du serviteur ne se fait pas sur le résultat ou sur la renommée du serviteur, mais sur sa fidélité et sa persévérance. Qu'est-ce qu'on attend d'un administrateur? Qu'est-ce qu'on attend d'un intendant? C'est qu'il soit trouvé fidèle. C'est qu'il soit trouvé fidèle. Alors reprenons ça. Les Corinthiens, dans leur pensée, être un maître en sagesse, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui domine, c'est quelqu'un qui fait compétition, en tout cas, joue tour à tour avec les autres, qui travaille avec leur propre force, qui peut manifester de l'orgueil. Et plus on parle du maître en sagesse, et mieux c'est. Pour l'apôtre Paul, son rôle, c'est d'être celui du serviteur, au servir, avec des ouvriers avec qui il travaille, dont il n'est pas en compétition. Et à chacun de ces ouvriers reçu un don particulier, une grâce particulière. Et ce sont des personnes qui pratiquent l'humilité parce qu'ils savent qu'ils ont tout reçu de Dieu, tout simplement. Et ils sont appelés à fidélité, à manifester la fidélité dans leur travail. Mes amis, chers frères et sœurs, il n'y a pas une classe spéciale, il n'y a pas de nouveau clergé, les serviteurs de Christ et les autres. Nous sommes tous appelés, chacun d'entre nous, à être disciples, serviteurs du Christ. Je vais juste, avant de conclure, faire juste une petite parenthèse. L'apôtre Paul parle des conducteurs d'église. C'est toujours de la prévention, là. N'y voyez rien de particulier en ce moment. Hein. Et il dit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 12, il dit, « Ayez de l'affection pour vos conducteurs. Ayez de l'affection pour vos conducteurs. Hein. Ayez de l'affection. » Je ferme la parenthèse. Relisez. Je voudrais conclure. Ce matin, me levant, j'avais cette pensée qu'il y avait une petite annonce dans le ciel. Une petite annonce. Vous savez, ceux qui cherchent du boulot. Hein, une petite annonce. Cette petite annonce, elle est pour chacun d'entre nous. Elle a été proclamée il y a 2000 ans. Et elle est valable encore aujourd'hui. Une petite annonce. C'est Jésus qui l'a prononcée. Et depuis 2000 ans, elle est là, affichée. Qui veut venir après moi ? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lorsque la parole a été donnée ce matin sur Marie qui a accepté et d'obéir à la parole de l'ange, manifestement, en obéissant, elle allait droit au devant des ennuis. Une grâce lui a été faite, mais elle allait subir l'opprobre d'une femme adultère, d'une femme humiliée. Et pourtant, elle a accepté de suivre. Et au travers de cette obéissance d'une simple servante, comme c'est dit, la bassesse de sa servante, l'œuvre de Dieu s'est accomplie. L'œuvre de Dieu s'est accomplie. Frères et sœurs, je vais vous demander de vous lever ensemble. Et puis il y a cette petite annonce encore dans le ciel, adressée à chacun d'entre nous. Qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le Seigneur veut renouveler notre appel de serviteur de Christ, chacun d'entre nous. Non pas à la recherche de l'orgueil, non pas à la recherche de la domination, non pas à la recherche de la compétition, mais juste être imitateur de Paul comme il a été imitateur de Christ. Seigneur, je te prie pour notre assemblée. Je veux te remercier, Seigneur, pour le cadeau que tu m'as fait personnellement de cette assemblée. Seigneur Jésus, je veux te remercier, Seigneur, pour cette communauté, Seigneur, qui a été fiancée à toi, qui t'appartient, qui est ton champ. Et Seigneur, tu nous as placés chacun d'entre nous comme ouvriers dans ce champ, ouvriers avec toi. Et Seigneur Jésus, nous voulons encore, Seigneur, renouveler, Seigneur, notre désir de te suivre, d'être disciples de Christ dans notre communauté et dans le monde. Dans le beau nom de Jésus, Seigneur, béni, reçois ce désir de nos cœurs. Et Seigneur, si tu dois crier un peu fort encore dans nos cœurs, pour nous sortir, Seigneur Jésus, de notre immaturité, Seigneur, je te donne la permission de le faire. Fais-nous grandir, Seigneur, encore. Amen. Amen. Merci beaucoup.
Je voudrais inviter les personnes à partager le pain et le vin, à s'avancer, ceux qui ont été invités. merci de venir devant. Je voudrais vous partager une méditation de cette semaine. Un verset s'apportait sur Exode 12, versets 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et alors, la méditation sur ces versets, c'était: imaginez que vous êtes un premier-né, en âge de raison, de comprendre ce qui se passe, et imaginez-vous le soir dans la maison en train de prendre le repas, en ayant vécu toutes déjà les 11 plaies d'Égypte qui étaient passées, la 12e arrivant. Et imaginez ce qui pouvait se vivre dans cette maison en tant que premier-né. Alors c'est quelque chose que je me suis mis à réfléchir. Et je me suis dit, je suis moi-même premier-né. J'ai dit, oui, c'est vrai que peut-être j'aurais trouvé de l'importance à tout cela. Et je serais allé voir mon père, il dit, tu as bien mis le sang sur le linteau? Tu es sûr que tu as bien mis deux couches peut-être pour qu'on le voit bien? Tu es sûr que tu as bien fait? Parce que, voilà, je pense que le père le ferait mieux, peut-être trois fois il mettrait, parce que c'est pour protéger. Et c'est cette protection, le sang qui était posé sur le linteau et sur le bord de la porte. Quand l'ange de la mort arrive et passe dans ces rues, il évite toutes ces maisons. Et je remercie qu'on puisse vivre cela après le Seigneur, parce que si chaque fois il fallait aller repeindre mon linteau, aujourd'hui, il est peint une seule fois, lorsque Jésus est mort à la croix. Et donc, quand je prends ce pain et ce vin, mais je me rappelle qu'il est mort pour moi, qu'il a versé ce sang, et que je n'ai plus à avoir peur. Je suis sous sa protection divine et éternelle. Parce qu'il y a une promesse dans tout ça, c'est qu'un jour, je le boirai avec lui. Donc, lorsque je prends le pain et le vin, je revois que le Seigneur a pris tout ça à la croix pour moi, que je suis sous sa protection divine et éternelle, et que dans tous mes soucis, je peux revenir à la croix, me dire, Seigneur, je viens parce que tu es là et tu me protèges. Nous sommes ses enfants et il est là pour nous protéger. Merci Seigneur pour ta protection encore aujourd'hui. Tu nous permets de partager avec toi, Seigneur. Merci parce que tu sais prendre soin de nous, de chacun de nous. Et tu nous invites maintenant à partager ce pain et ce vin, Seigneur. Amen. Vous pouvez passer. Merci.
Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos cœurs en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans la paix, ta volonté et non la mienne. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Que tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. À toi l'honneur, roi serviteur.